nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour introduire à ce quatrième entretien sur l'acte de charité, je vous lis l'acte d'amour du Saint Curé d'Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. Voilà. Pour pas commencer, je vais vous présenter les meilleurs vœux. Je les ai présentés le 1er janvier pendant l'homélie. J'ai dit que si on les présentait comme le monde les présente, ça ne servait à rien. L'Église devait avoir autre chose à dire que les vœux tels que le monde les présente. Et à la fin de la messe, plus personne n'osait me présenter les vœux. Mais je vous souhaite, puisque le pape nous propose une année sainte de la miséricorde, qu'elle soit doublement sainte alors, et que nous sachions accueillir la miséricorde à la mesure de ce que Dieu veut nous donner, et que nous prions pour que nos contemporains accueillent cette miséricorde de Dieu, sans laquelle le monde ne trouvera pas la paix. Alors on peut, j'allais dire oui et non, il y en a qui rentrent 3-4 fois par jour.
Ah oui, non, je veux dire, par exemple, une fois par semaine.
Oui, mais alors il faut la passer dans le bon sens, parce que, non, oui, une fois par semaine, vous pouvez. Bien, le thème d'aujourd'hui, c'est la charité. On avait dit pour les deux autres vertus théologales, la foi et l'espérance, que ce sont des vertus qui viennent de Dieu, qui unissent l'homme à Dieu et qui permettent à l'homme de revenir à Dieu. Et peut-être que ça va nous apparaître de façon encore plus claire avec la vertu de charité. Pas simplement parce que saint Paul dit que c'est celle qui dépasse les autres, qu'elle ne passera jamais, que la plus grande des trois c'est la charité, mais peut-être aussi parce que la seule définition qu'on trouve de Dieu dans toute la Bible, c'est précisément à la fin de la révélation, saint Jean, sans doute à la fin de sa vie, ayant médité toute sa vie sur le mystère de l'amour de Dieu, donne cette définition de Dieu: Dieu est amour. Et on pourrait mettre entre les deux mots le signe égal. C'est-à-dire que l'être même de Dieu, c'est l'amour. Il y a identité entre Dieu et amour. Lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son identité à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis, celui qui est, celui qui est en dehors du temps ». Il veut dire « Celui que l'amour maintient éternellement dans l'être ». Et donc, que ce soit à l'intérieur même de Dieu, la vie de Dieu, mais ça on ne la connaît que parce que Jésus est venu nous en parler, ou que ce soit les manifestations en dehors de Dieu, ce ne sont que des paroles ou des gestes qui nous manifestent l'amour de Dieu. Saint Augustin observe que la Bible ne fait que raconter l'amour de Dieu. Et je voudrais vous lire un passage d'un moine théologien, Le mystère divin qui se laisse entrevoir à nous n'est pas une merveille étrangère, ne pouvant qu'éblouir notre esprit. C'est un mystère de vie, c'est un mystère d'amour. L'amour qui est en Dieu, qui unit Dieu à Dieu dans l'inaccessible secret de la Trinité et qui se révèle à nous dans le commun dessein des divines personnes de nous donner part avec elles, de nous admettre en leur intimité. Qu'ils soient un, comme nous, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin que leur unité soit parfaite et que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et le moine poursuit, au centre de toute la vie chrétienne, il y a cette révélation qui nous est faite dans le Christ, que Dieu est charité et qu'il veut nous faire entrer dans le mystère de son amour. Ce que le Christ nous a apporté, c'est la réalité même de cet amour qui est en lui et qui est l'amour du Père s'inclinant vers nous. Je résume, la charité, c'est cette réalité qui se vit à l'intérieur même de Dieu et que Dieu non seulement veut faire connaître à l'homme, mais veut partager avec l'homme pour rendre l'homme capable de vivre de cet amour qui est en Dieu. Alors, ceci étant rapidement précisé, cela explique que je vais changer un peu l'ordre habituel. Je ne vais pas commencer par vous dire ce que n'est pas la charité, mais justement je vais vous dire ce qu'est la charité, je vais essayer de vous dire ce qu'est la charité, parce qu'on va voir qu'en dehors de cet infini qu'est la charité de Dieu, j'allais dire, tout ce qui n'est pas cela ne peut que rabaisser la charité. Mais on perçoit mieux ce qu'elle n'est pas, ou combien elle est affaiblie, ou combien on la baisse, quand on a saisi d'abord ce qu'elle était. Donc, grand 1, la vertu de charité. Et premièrement, comment elle se vit en Dieu, puisque Dieu est amour. Petit a, Dieu est unique. Il y a la primauté de l'être. Dieu a toujours existé, c'est-à-dire que l'amour a toujours existé. Et à partir du moment où il sort de lui-même pour créer, chaque geste qu'il pose, chaque parole, est une manifestation de son amour. À la suite du péché originel, l'homme s'est éparpillé dans le polythéisme. Alors qu'il était fait, qu'il était en communion avec ce Dieu unique qu'il a créé, il s'est éparpillé dans le polythéisme. Et tous les peuples sont polythéistes jusqu'au jour où Dieu se choisit Abraham et qu'il appelle pour fonder avec lui un peuple, avec une alliance. Tu seras mon peuple et je te donne une descendance et une terre. Et toi, tu restes fidèle à cette alliance avec un Dieu unique, puisque de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Et tout l'Ancien Testament, c'est approfondir cette alliance entre Dieu unique et son peuple. Donc il se révèle, depuis Abraham, comme un Dieu unique. Jésus arrive, lorsque les temps furent les derniers, ce sont les textes qu'on a entendus dans les derniers jours avant Noël et après, au moment de Noël. Dieu a fini de nous parler par les prophètes, il nous parle en son Fils. Et Jésus vient nous dire, vous avez raison de croire qu'il y a un Dieu unique. Moi, je viens vous en parler et je peux vous en parler parce que je suis son Fils. Et ce Dieu unique est en fait une communion de trois personnes qui sont unies entre elles par un amour tellement grand que justement cet amour garde les trois personnes dans l'unité d'un seul Dieu. Donc il y a bien un Dieu unique, mais qui est un Dieu trinitaire. Il y a trois personnes distinctes. Et c'est précisément là que l'amour peut se vivre. Quelqu'un qui est tout seul ne peut pas aimer son nombril. Donc la grande révélation s'achève lorsque Jésus nous dit « Il y a un seul Dieu en trois personnes ». Quelques caractéristiques de cet amour rapidement. Justement, cet amour est tellement fort qu'il garde dans l'unité. C'est un amour qui se donne. Chaque personne ne vit que par le don des deux autres. Chaque personne sort d'elle-même pour faire exister les deux autres. C'est un amour qui est fécond. Le Père de toute éternité engendre le Fils, et du Père et du Fils procède le Saint-Esprit. Et c'est un amour qui garde les personnes dans la dépendance les unes des autres. Le Père est bien le Père de quelqu'un. Le Fils est bien le Fils de quelqu'un. Et l'Esprit, c'est cet esprit d'amour, ce souffle, ce regard qui va de l'un à l'autre éternellement, qui est tellement dense que c'est lui-même une troisième personne. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Chacun est à l'image de Dieu, on l'a peut-être déjà dit, par son âme. Et l'homme et la femme sont invités, lorsqu'ils s'unissent dans le sacrement du mariage, à reproduire, avoir un amour qui reproduit entre eux l'amour trinitaire. Mais ce que Dieu est de toute éternité, l'homme et la femme sont appelés à le reproduire dans le temps. C'est-à-dire à ne faire plus qu'un, d'un amour qui garde dans l'unité, d'un amour fécond, d'un amour qui donne la vie et d'un amour qui garde dans la dépendance les uns des autres. Je ferme la parenthèse. L'Église ne cessera jamais de méditer sur ce mystère de la Sainte Trinité. Quand j'étais aumônier dans les écoles, il y a deux sujets que les catéchistes n'aimaient pas beaucoup aborder. Et donc quand il s'agissait d'en parler, elle me disait « Mon père, ça c'est pour vous, c'était la Sainte Trinité, le péché originel ». Je vous lis une petite méditation de Richard de Saint-Victor, qui est un théologien du XIIe siècle. Dans la charité véritable, l'excellence suprême est, semble-t-il, de vouloir qu'un autre soit aimé comme on l'est soi-même. C'est-à-dire qu'on ne soit pas deux, mais trois. Dans l'amour mutuel, dans l'amour brûlant, rien n'est plus rare ni plus admirable. Vouloir que l'être que l'on aime souverainement et dont on est souverainement aimé en aime un autre d'un égal amour. Que ce bonheur que j'ai d'être aimé souverainement, je ne le garde pas pour moi, mais qu'il puisse être connu et partagé par un troisième qui partagera ma joie d'être aimé comme ça. Et donc il dit, l'amour parfait finalement c'est trois. Je termine ce premièrement par la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique de la vertu de charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est partout. Deuxièmement, l'homme créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image d'un Dieu amour et il est évident que Dieu met dans le cœur de l'homme une capacité à aimer, c'est-à-dire à entrer en relation, à se donner. Cet amour est un amour naturel qui n'est pas la vertu de charité, mais qui est une capacité à aimer Dieu, à aimer son prochain et à s'aimer soi-même. Le cœur de Dieu débordant, il se dit « c'est dommage que mon cœur déborde et que personne ne soit là pour récupérer cet amour, pour le connaître, pour le reconnaître et y répondre ». Et donc il sort de lui-même pour créer. Ça n'est pas une nécessité. Un enfant catéchisé m'a dit un jour « finalement, heureusement qu'on est là, sinon Dieu s'ennuierait ». Alors je lui ai répondu que quand on est avec des personnes qu'on aime et dont on est aimé parfaitement, on ne s'ennuie jamais. Donc ça n'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il a créé. C'est par pure bonté pour que d'autres que lui prennent conscience de cet amour et en vivent et puissent y répondre. Dieu est la source au sens que c'est lui l'origine. Mais quand on parle d'une source, on dit il est inévitable que la source pour exister se répande. Il n'y a en Dieu aucune nécessité de créer. C'est un acte gratuit, bienveillant pour nous et pas pour lui. J'essaie d'aller un peu plus vite cette année pour arriver jusqu'au bout. Donc il y a dans l'homme la capacité à aimer, une relation d'amitié avec Dieu, de bienveillance vis-à-vis de l'homme, entre l'homme et la femme, et de paix avec soi-même. Dans sa première encyclique, le pape Jean-Paul II écrit « L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne l'a pas fait sien, s'il n'y participe pas fortement. C'est pourquoi le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. Il retrouve la grandeur, la dignité et la valeur propre de son humanité. Lorsque l'homme a commis le péché, il a abîmé dans son cœur cette capacité à aimer. On le voit vis-à-vis de Dieu. J'ai eu peur, ça c'est dramatique, et je me suis caché de toi, donc notre relation va devenir plus compliquée. J'ai peur de paraître sous ton regard tel que je suis. La relation avec l'autre est abîmée. La convoitise est née dans le regard et dans le cœur de l'homme et de la femme l'un vis-à-vis de l'autre. Je désire prendre et non plus attendre que l'autre se donne. Et la responsable, c'est celle que tu m'as donnée. Donc j'accuse. Et j'ai beau dire que c'est elle, je ne suis quand même pas très fier de ce que j'ai laissé faire. Donc je ne suis plus en paix avec moi-même. Et on pourrait rajouter que la relation de l'homme avec la nature est abîmée aussi, puisque l'homme travaille à la sueur de son front et que la femme enfantera dans la douleur. Donc, dès le chapitre 3, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un cœur à l'image de Dieu, blessé par le péché. Et petit b, cet amour n'en reste évidemment pas là, cet amour est un amour racheté et divinisé. C'est-à-dire que le Christ ne veut pas simplement se contenter de venir restaurer une capacité à aimer telle que l'ont connue Adam et Ève. Il vient aussi pour rendre l'homme capable d'aimer comme jusqu'à présent il n'avait jamais aimé. Et ça n'est plus à ce moment-là un amour naturel, c'est un amour surnaturel qui est à proprement parler la vertu de charité. L'homme créature va être rendu capable d'aimer comme Dieu, qui est le Créateur. Il est impossible à l'homme d'acquérir la charité par lui-même. Saint Paul le dit, parmi tous les dons, recherchez le don le meilleur, mais c'est donc que ça nous est donné. Voilà, c'est surnaturel, ça n'est pas naturel. C'est divin, ça n'est pas humain. Je vous lis un passage du père Jérôme. Père Jérôme, c'est ce moine de Séphon qui est un grand spirituel et dont on réédite les écrits. L'amour pour Dieu, en effet, n'est pas, ne peut être de la même étoffe qu'un amour humain. Ne croyez pas que, de la même manière dont vous aimez Alfred ou Catherine, ainsi vous pouvez aimer Dieu, simplement parce que vous dirigez vers cet objet suprême le même sentiment que vous portez vers des personnes aimées. N'imaginez pas qu'il suffise de pousser au sublime, en les portant sur Dieu, nos sentiments d'amitié humaine pour nous trouver en pleine charité. Nullement, car il s'agit de deux étages essentiellement différents. Voilà, nous sommes sur terre et l'étage supérieur, c'est le ciel. Pour vous, mon frère, ne cherchez pas pour en tirer satisfaction en quoi consiste la charité. Cherchez plutôt où elle se trouve pour aller en prendre. Mieux encore, puisqu'elle ne vient que par un don gratuit, essayez de savoir qui la donne et comment faire pour vous attirer pareil don. Aussi, commencez par faire, au gré de vos temps libres, mais sans trop tarder, commencez par faire, toujours à genoux évidemment, 5000 heures d'oraison. Un simple rodage, rien de plus. Que voulez-vous ? En tout domaine, celui qui en revient sait autrement les choses que celui qui n'y est pas allé. Ensuite, vous deviendrez circonspect. Vous ne croirez plus que la charité fuse à tout instant dans le comportement du chrétien, que par la vertu d'une simple intention, elle se trouve là pour transformer toutes nos actions en autant d'actes d'amour. Ça souligne l'une des difficultés que nous allons rencontrer, dont je parlerai un peu plus loin. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'amour que c'est forcément la charité. Ce n'est pas parce qu'on emploie le mot de charité que forcément ça en est. Ça s'acquiert, voilà. Commencez par un petit rodage du moteur, 5000 heures d'oraison. Après, on en reparle. Donc, c'est... Voilà, ces petits appareils là qui, avec une batterie qu'on branche. Si je veux vivre de la charité, il faut que je sois branché sur celui qui est la charité. Et l'oraison me branche sur Dieu. On pourrait dire que la charité, c'est une greffe de cœur. Et le Christ s'est incarné pour apprendre à l'homme à vivre avec le cœur de Dieu. Ça n'est pas une formule, c'est la réalité de ce que Dieu nous propose. Et si on est moins que ça, on passe à côté de ce pourquoi le Christ s'est incarné. Ça veut dire qu'il faut de notre part une double conversion, celle de notre regard. Il est possible que les choses soient autrement que je ne les vois, et celle de notre façon de vivre, de façon à ce que non seulement je me branche sur Dieu, mais je m'y branche suffisamment pour que la batterie se remplisse, et dans les conditions suffisamment bonnes pour que le transfert entre lui et moi puisse se faire. Il ne suffit pas de greffer un cœur, il faut encore laisser le temps et les conditions pour que la greffe prenne. Ça veut dire, très concrètement, convertir notre façon de voir le monde. Nous ne pouvons plus vivre à notre mesure, qui est contingentée dans le temps et dans l'espace. Alors nous serons toujours sur terre dans le temps et dans l'espace. Mais nous avons déjà, à partir du moment où Jésus nous dit que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, la possibilité d'élargir notre vie pour que nous soyons déjà en partie dans l'éternité et déjà en partie dans l'infini, parce que Dieu change notre vie en venant vivre notre vie. À partir du moment où je pourrai raisonner en disant « maintenant j'aime assez », alors c'est que je suis revenu à un niveau humain dans la mesure et que je ne suis pas dans la charité. La charité, c'est la démesure. La charité, c'est l'absence de mesure. Voilà, l'amour ne compte pas. Un prêtre a dit « au fond, le grand crime contre la vie, c'est le refus du maximum. On se rétracte sur le minimum, on ne fait rien de plus. Or, la loi première de la vie, c'est la croissance jusqu'au bout. » Le Seigneur ne me reproche pas de ne pas avoir atteint l'infini, mais il me reprochera de m'être arrêté en route. Et le soir du jeudi saint, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ?» Très bien, ça c'était déjà dans l'Ancien Testament, donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la mesure nouvelle. « Comme moi, Jésus, le Fils de Dieu, je vous ai aimé. » Et il sait très bien que c'est impossible. Il est impossible à des créatures d'aimer comme des créateurs, comme le Créateur. Il est impossible à l'homme d'aimer comme Dieu. Sauf si lui le rend possible, puisque rien n'est impossible à Dieu. Donc notre foi doit croire que c'est possible, pas par nos forces et notre propre génie, mais parce qu'il nous le propose et qu'il a pris les moyens pour que ce soit vrai. C'est bien dans l'élargissement de notre cœur aux dimensions du cœur de Dieu que consiste la charité. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour faire le lien entre amour et vérité. Il y a un psaume qui dit « Amour et vérité s'embrassent ». Et dans notre tête, quelquefois, les deux paraissent incompatibles, voire opposés. Soit on développera plutôt l'amour, soit on développera plutôt la vérité. Celui qui est très attaché à la vérité va dire les choses telles qu'elles sont, quitte à heurter les gens et à nous dire « Eh bien, votre comportement, il n'est pas juste, mais je vous le dis au nom de la vérité. » Et il apparaîtra comme un sans-cœur. Soit au contraire, on accueille tout le monde et on leur dit « Voilà, je vous aime beaucoup, je suis vous, vous êtes comme vous êtes et je vous prends comme vous êtes. » Au risque de laisser passer les conduites mauvaises et de ne pas assez les dénoncer, en s'appuyant sur le fait que Jésus dit dans l'Évangile « Les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Et on oppose un peu les deux. Et soit on est très attaché à la vérité et on est un peu pharisien, soit on est plus attaché à l'amour et on est un peu publicain et éventuellement complice du péché. Et il nous paraît difficile à nous de tenir les deux en même temps. Et la solution, elle est évidemment, comme toujours, de regarder comment vit le Christ. Et le Christ a un cœur immense qui accueille tout le monde sans exception. Il est la charité parfaite et l'accueil parfait de tout le monde. Et il est la dénonciation du péché. Donc il tient l'amour en accueillant tout le monde et la vérité en dénonçant les comportements. C'est ce qu'il fait avec la Samaritaine, par exemple. Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. C'est de la provocation de la part de Jésus. Le sujet n'était pas abordé. C'est lui qui l'aborde. Et Jésus sait très bien qu'elle n'a pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Celui avec lequel tu vis, c'est le 6e. Voilà, il l'accueille. Il n'y a aucune condamnation, mais il y a la vérité. Pareil avec la femme adultère, prise en flagrant délit. Alors on veut justement voir comment Jésus va se situer. Est-ce qu'il va prendre le parti de la vérité et on lapide la femme? Ou est-ce qu'il va prendre le parti de l'amour et on va l'accuser de laxisme? Viens, moi je t'accueille, je ne te condamne pas, pas plus que les autres, mais je te dis maintenant... « Va et ne pêche plus. » Et on a en même temps la vérité et l'amour. Troisièmement, pourquoi faut-il commander d'aimer? Aimer est par excellence un acte humain. C'est-à-dire un acte accompli par une personne humaine, un acte accompli librement. Nul ne peut forcer personne à aimer. On l'a suffisamment entendu et on l'a suffisamment répété nous-mêmes pour parler, quand on parle du mystère du mal, pour dire que Dieu qui veut le bien, Dieu qui vient à la rencontre de tout le monde, frappe à la porte de notre cœur, mais que même Dieu ne peut pas entrer par effraction dans le cœur de l'homme. Si vous m'ouvrez, j'entrerai chez vous, je demeurerai avec vous et je dînerai avec vous. Si vous ne m'ouvrez pas, je passe mon chemin. Et donc, comment peut-on donner le commandement d'aimer? J'aime ou j'aime pas, mais vous ne pouvez pas me forcer. Et sous-entendu, parce qu'il y a un commandement, c'est forcé. Quand on demande à Jésus quel est le grand commandement, c'est de fait Jésus qui associe le grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est Jésus lui-même qui associe l'amour au commandement. Si Jésus nous en donne le commandement, c'est d'abord le rappel que pour l'homme, aimer, c'est accomplir sa vocation. Je sais bien que tu as le cœur malade, c'est pour ça que je suis incarné, que je suis venu vivre parmi les hommes. Mais malgré ton cœur malade, ta vocation fondamentale, profonde, elle est inscrite encore dans ton cœur, c'est d'aimer. Et d'aimer Dieu, ton prochain et toi-même. En rappelant ta vocation, j'ouvre une porte et je dis, je viens restaurer ton cœur pour te rendre capable d'accomplir ta vocation. Dans un premier temps, Dieu commande parce que l'amour est en nous blessé. Et dans un deuxième temps, il commande parce qu'il donne. Dieu le premier nous a aimés. Il ne suffit pas de répondre, il ne s'agit pas de répondre par un vague sentiment. Jésus est plutôt gentil, je l'aime bien, finalement c'est quelqu'un de bien. Il s'agit de répondre en engageant notre intelligence et notre volonté. Et il donne le commandement pour nous inciter à engager dans notre réponse plus qu'un sentiment, mais notre intelligence et notre volonté. Et donc, de nous savoir aimer, de nous laisser aimer par Dieu, d'en goûter toute la joie, et parce que nous sommes aimés par Dieu, comprendre qu'il nous renvoie forcément sur les autres, et que je ne peux plus séparer l'amour de Dieu et l'amour des autres. Voilà ce que dit Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour ». Le premier, Dieu nous a aimés et il continue à nous aimer le premier. C'est pourquoi nous aussi, nous pouvons répondre par l'amour. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir son amour et nous pouvons l'éprouver. Et à partir de cet amour premier de Dieu, en réponse, l'amour peut aussi jaillir en nous. C'est-à-dire que s'il ne nous en fait pas le commandement, il ne nous aide pas à nous hisser au niveau où on va pouvoir s'ouvrir à la charité. Et si on en reste simplement au niveau de dire « j'aime ou j'aime pas », on n'aimera jamais de charité. Quatrièmement, toujours dans ce grand 1, l'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que dit saint Jean, première lettre, chapitre 4, verset 18. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler du pasteur Wurmbrand. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Je pense qu'il est aujourd'hui mort, sans doute. C'est un pasteur roumain qui avait fait des années de prison dans les geôles communistes en Roumanie. Et pendant qu'il était en prison, il a eu l'occasion de relire toute la Bible. Et il a compté 366 fois l'expression « n'ayez pas peur ». Il dit 366 fois, c'est quand même étonnant, une par jour, pour que tous les jours on entende Dieu nous dire « n'ayez pas peur ». Et voilà, c'est l'opposé de Adam qui, après le péché, « j'ai eu peur et je me suis caché ». Dieu passe son temps à nous dire « mais fondamentalement, le péché, malgré tout, ne change rien à l'amour que j'ai pour vous. Donc, n'ayez pas peur de vous laisser aimer, n'ayez pas peur de moi, venez à ma rencontre ». Sainte Thérèse explique que, Sainte Thérèse de Lisieux, plus on regarde Dieu, plus on prend conscience de son amour, plus notre regard se détourne de nous-mêmes, plus notre péché devient relatif et notre prise de conscience de son amour devient grande. Et qu'on n'a pas peur de l'amour. J'ai peur d'un décalage. J'ai peur si mon péché prend une proportion pas ajusté. Alors mon péché peut être grand, mon péché peut être grave, mon péché a des conséquences qui peuvent être graves, mais mon péché reste relatif par rapport à l'amour de Dieu. Et si j'ai peur, c'est que j'inverse les proportions. Voilà ce qu'elle... Je vous lis saint Paul. Enraciné, fondé dans l'amour, ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà, je n'ai pas peur parce qu'en méditant, j'entre de plus en plus profondément dans le cœur de Dieu. Et sainte Thérèse explique, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Ce qui plaît au bon Dieu dans mon âme, c'est de me voir aimer ma faiblesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Ne crains pas, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Donc il ne faut pas avoir peur, et pourtant l'Église nous dit que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a la crainte de Dieu. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des dons du Saint-Esprit. Cette crainte de Dieu, c'est au contraire, j'aime tellement Dieu que je craindrais d'en être éloigné ou même de le perdre. Mais c'est une crainte qui est suscitée non pas par Dieu lui-même, mais par la crainte de le perdre ou de s'en éloigner. Voilà ce que le cardinal Ratzinger écrivait dans un livre, « Regardez le Christ », c'est une méditation sur la foi, l'espérance et la charité. L'éducation chrétienne ne doit pas avoir pour but de chasser de l'homme toute espèce de crainte. En faisant cela, elle serait en contradiction avec ce que nous sommes. Sa tâche doit être de purifier la crainte, de lui assigner une place adéquate et de l'intégrer dans l'espérance et l'amour pour qu'elle s'en fasse la gardienne et l'auxiliaire. C'est alors que peut croître la véritable bravoure dont l'homme n'aurait pas besoin s'il n'y avait pas de motif de crainte. Mais lorsqu'on prétend écarter la crainte en totalité et sans en laisser la moindre trace, on nie les menaces dirigées contre notre salut et l'intégrité de notre être. La crainte refoulée, qui ne trouve plus sa juste place, ressurgit sous les nombreux déguisements d'une angoisse fondamentale. Notre époque, qui a enlevé à l'homme l'angoisse du salut et du péché, et l'a soi-disant libéré de la crainte, voit foisonner ces nouvelles angoisses qui prennent souvent la forme de psychoses collectives, la peur du fléau, des grandes maladies, l'angoisse du vide et de l'absurdité de l'existence. Quiconque aime Dieu sait qu'il n'y a qu'une seule vraie menace pour l'homme, le risque de perdre Dieu. C'est pourquoi il prie « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », c'est-à-dire de la perte de la foi et du péché en général. Quiconque abandonne Dieu pour se libérer de cette véritable crainte se soumet à la tyrannie de la crainte sans espérance. Ça fait quand même du bien d'avoir affaire à des gens intelligents. C'est lumineux, ces analyses qu'ils sont capables de faire. Grand 2. Vous ayant dit ce qu'était un peu, essayez de vous dire ce qu'était la charité. Grand 2. Ce que n'est pas la charité. D'abord, une difficulté de vocabulaire. Premièrement, il y a deux types peut-être de difficultés. Le même mot ne recouvre pas forcément la même réalité. Je vais aller vite parce que ça, vous l'avez déjà entendu. J'aime la vanille, j'aime mon métier, j'aime ma patrie, j'aime mes parents, j'aime Dieu. Le même mot pour tout. Bien. Utiliser dans une conversation avec des jeunes le mot « amour », il est possible que ça ricane dans certains coins parce qu'ils vont lui donner au mot un sens auquel vous ne pensez pas du tout. Ce qui fait que quelquefois le mot est piégé. C'est pareil pour la charité. La charité, c'est tout. Donc c'est voilà. Donc on a une difficulté de vocabulaire. Je ne m'étends pas. Enfin, juste un exemple, la charité. Vous avez un mendiant qui va vous dire la charité. Il m'est arrivé dans le métro. Souvent dans le métro, les gens, bon, ils m'ont dit, quand ils voient que je suis prêtre, la plupart du temps, ils disent « Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez prêtre. Bon, » alors, pour être très honnête, moi, ça m'arrange, mais ce n'est pas parce que je suis prêtre que je suis dispensé de donner. Mais une fois ou l'autre, il est arrivé de voir des gens, au contraire, parce que j'étais prêtre, qui étaient encore plus furieux que je ne donne pas. Mais justement, la charité, ce n'est pas ça. Saint Paul dit « J'aurais beau donner ma fortune en aumône, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. » Donc la charité n'est pas dans le fait de donner ou de ne pas donner. Elle est dans ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça, les gens ne peuvent pas le voir. Deuxième difficulté, des mots différents pour parler d'une même réalité. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, c'est la philosophie grecque qui a commencé à réfléchir là-dessus. Le pape Benoît XVI en parle dans son encyclique, avec trois mots. Eros, qui est plutôt la dimension physique de l'amour, philia, qui est l'amitié, et agapé, qui est la charité. Et il analyse que dans toute la Bible, je crois le mot eros est employé deux ou trois fois seulement. Donc cette réalité semble mise de côté. Philia, c'est beaucoup les rapports entre Jésus et ses disciples, et l'agapé, c'est cette charité qui nous donne de vivre. Et il dit, au siècle des Lumières, les critiques se sont faites très vives vis-à-vis de l'Église, accusant, ça c'est Nietzsche, accusant l'Église d'avoir empoisonné l'éros. Et ce qui est un reproche tout à fait inacceptable. Parce que précisément, et Jean-Paul II a beaucoup aidé, mais il n'est pas le premier à le dire quand même, pour dire toutes les dimensions de l'amour sont importantes, y compris la dimension de l'amour physique, qui peut être déjà une approche de la charité. Mais c'est quelque chose de tellement grand et aussi de tellement fragile que ça ne peut pas être fait n'importe comment. Donc pour sauver l'amour éros, pour le guérir de ses malformations, l'Église dit « vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment, c'est pas tout et n'importe quoi ». Mais ce n'est pas par mépris de cette dimension-là de l'amour. Et en fait, la réflexion de l'amour sur ce qu'elle reçoit elle-même du Christ son époux, la réflexion de l'Église, pardon, sur ce qu'elle reçoit du Christ son époux, va permettre de mettre les uns par rapport aux autres les trois dimensions de l'amour et de les réconcilier entre elles. Je passe. Deuxièmement, ça me paraît plus important parce qu'on est dans un monde qui est assez confus là-dessus. Il y a des réalités réductrices de la charité. C'est-à-dire que tout mouvement généreux d'une personne vers une autre n'est pas la charité. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas chrétien de ne pas vivre la charité s'il ne l'a pas reçue. Et il peut parfaitement vivre, et il doit vivre, cette dimension de l'amour naturel qui le pousse vers les autres. Et il peut y avoir beaucoup de générosité chez un non-chrétien et un manque de charité chez un chrétien. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas confondre toutes ces différentes manifestations qui nous portent vers les autres. Voilà ce qu'écrit Madeleine Delbrel. Vous savez, cette convertie qui s'est installée dans les années 50-60 à Évry, ville marxiste, pour vivre une petite cellule de vie chrétienne. Il nous faut aimer de cette charité qui n'est pas faite de main d'homme, de cette charité qui est divine. Et quelle caricature n'en avons-nous déjà donné ? La philanthropie, l'altruisme, la solidarité. La charité, elle, ne s'apprend que dans le cœur du Christ et dans la charte de son cœur qui est l'Évangile. Pareil pour Raoul Follereau. En 1955, à Lyon, il parle devant 2000 séminaristes. Vous vous rendez compte, 2000 séminaristes, c'est trois fois plus que le nombre de séminaristes en France aujourd'hui. Attention, la charité, pas l'aumône, pas cette offrande dédaigneuse qu'on laisse tomber, qu'on donne de haut en bas, et qui, si elle offense celui qui reçoit, déshonore à coup sûr celui qui donne. Cette aumône-là, c'est la caricature de la charité. Attention, la charité, pas la solidarité. La solidarité, c'est la réduction laïque de la charité. C'est en ce sens que saint Paul nous dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et plus tard, il dira, dans le même discours, « Le christianisme, c'est la révolution par la charité. » Un très beau discours aux séminaristes en 1955. Mère Teresa fait cette remarque un jour, elle a discuté avec un Indien qui a dit « Mais c'est admirable, mais ce que vous faites, c'est un travail, c'est quelle différence il y a entre votre travail et un assistant social ?» Et elle dit « Extérieurement, peut-être qu'on fait les mêmes gestes. » Un hindou disait que la différence entre les travailleurs sociaux et nous était que les uns agissaient pour quelque chose et que nous agissions pour quelqu'un. Et donc, on ne peut pas, quand on a ce trésor, ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs aux autres. Mais c'est un trésor qu'on ne peut pas laisser appauvrir en disant « tout est équivalent ». Troisièmement, dans ce grand 2, ça va peut-être vous étonner, il y a une perversion de la charité. Le mot peut vous paraître fort, mais il est exprimé dans les intentions de l'auteur lui-même. Il s'agit de Feuerbach, qui est le maître à penser de Karl Marx. Et je vais vous lire une citation de quelques lignes, et vous allez bien voir qu'on est bien dans la pensée marxiste. « L'homme ne sera heureux que lorsqu'il aura tué le christianisme qui l'empêche d'être homme. Et ce n'est pas par la persécution qu'on tuera le christianisme, car une persécution nourrit. C'est par la cinquième colonne, par la transformation interne et irréversible du christianisme en athéisme humain. Avec l'aide des chrétiens eux-mêmes, illuminés par une fausse charité. C'est-à-dire, on va vider le christianisme de sa substantifique moelle, il gardera l'apparence du christianisme et ce sera une coquille vide. On va amener les chrétiens à vivre ce qu'ils pensent être encore la charité, et qui non seulement est vide, mais qui quelquefois peut être dévoyé. Et je vais vous donner un exemple, qui n'est pas destiné à blesser qui que ce soit, mais qui est destiné à faire réfléchir sur notre façon de penser. Je prends l'exemple, par exemple, de l'avortement. Et quand j'étais au séminaire, j'avais fait une étude sur la loi Veil en France. Dans les années 70, la majorité des Français est contre la loi sur l'avortement. Et en quelques années, on va travailler l'opinion pour faire en sorte que la majorité des Français devienne pour. Et on ne va pas leur dire ce qu'a dit, par exemple, le Concile Vatican II, que l'avortement est un crime abominable. On va présenter des cas de détresse, réels ou pas toujours réels, et je ne nie pas la détresse des gens, en leur disant, vous voyez bien qu'il y a des cas où on ne peut pas laisser continuer. Donc on va travailler pour que au moins la porte s'entrouvre. C'est exactement ce qu'a fait Simone Veil en disant des années après, j'étais étonné que l'Église ne réagisse pas plus. On a entrouvert la porte et on voit maintenant comment les deux portes sont battantes. Et on a perverti la façon de penser. Et j'ai eu l'occasion, quand j'ai fait ce devoir au séminaire, quand j'étais au séminaire, de lire des articles. Alors j'ai lu plusieurs mois de débats à l'Assemblée nationale. Donc j'ai lu le journal officiel. Et j'ai lu des articles de revues jésuites et de revues dominicaines. Et c'était, excusez-moi, mais quelquefois c'était à vomir. Je vais vous lire un extrait. Comme quoi on pervertit les mots, et par les mots on veut pervertir la pensée, pour nous amener à croire que quand on fait un avortement, on fait un acte de charité. Je vous lis un père dominicain, le père Poyer. Il y a beaucoup de cas où des femmes et des hommes n'ont effectivement pas la possibilité de faire vivre une vie humaine à ceux dont le développement s'annonce dans l'embryon, où ce n'est pas de leur faute, et où je demande qu'on me prouve ce que Dieu perd à ce que le développement de l'embryon ne se poursuive pas, et ce qu'il gagnerait à ce qu'il se poursuive, ce qu'il y gagne en termes de vie de Dieu, en termes de vie pour Dieu et avec Dieu. Et il poursuit avec cette formule, je trouve terriblement admirable, aider à ne pas faire naître cet embryon qui a si peu de chances de devenir un homme digne de ce nom. Voilà. Et donc, si j'aide les gens en détresse, je fais un acte de charité. Et ce que dit Feuerbach, on a vidé notre christianisme de ce qu'il fait vivre. Qu'est-ce qui nous différencie si on n'a plus la charité? Si on n'a que les sentiments que tout le monde peut avoir, mais je ne reproche pas aux autres de les avoir, mais Jésus passe son temps dans l'évangile en nous disant, si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Alors si nous, on n'a pas, parce qu'on a reçu de Dieu, quelque chose en propre qu'on veut partager, sans que ça diminue chez nous, mais pour que ça augmente chez eux, alors on n'a plus de raison d'être. Et on tient les mêmes raisonnements pour l'euthanasie, pour le mariage pour tous, mais ils sont dans la difficulté, mais on peut être compatissant, voilà. Et ça veut dire que si je suis contre quelque chose, je manque de compassion. Grand 3. Aimer en acte et en vérité. Toujours Saint Jean dans sa première lettre. La charité n'est pas un sentiment éthéré. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Le père Jérôme que je vous ai cité tout à l'heure, la charité est une vertu. Par conséquent, elle doit s'exercer, donner des actes positifs. Elle est constituée pour produire ces actes. Aimer est une activité, non une passivité, une opération, non un laisser-faire, un surplus pour notre acte d'exister, une perfection, non une inertie. Alors, dans ce grand 3, premièrement, la charité se pratique au nom du Seigneur. Après la Pentecôte, Pierre et Jean se trouvent devant le temple et tous les matins, qu'on dépose à la belle porte le mendiant qui va passer sa journée à demander de l'aide en mendiant. Pierre et Jean arrivent. J'ai relu ça et je faisais pas attention aux détails. Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean et dit « Regarde-nous ». J'ai trouvé ça extraordinaire. Et nous, enfin moi le premier en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Ça me dérange. Donc j'essaye de faire celui qui n'a pas vu. Donc je le regarde. S'il ne me regarde pas, ben, je me dis ça m'arrange parce que comme ça, voilà, il n'a pas vu que... Si je souris, s'il me regarde, j'essaie de sourire. Pierre provoque, regarde-nous. Parce que même si tu es dans un état, la dignité entre les deux est la même. Et même si tu as peut-être honte de mendier, je ne suis pas supérieur à toi et on doit avoir des rapports d'homme à homme. Je ne dois pas fuir ton regard et tu ne dois pas fuir mon regard. Regarde-nous. Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Voilà, la charité est faite au nom de Jésus-Christ. Jésus l'avait dit, « Quiconque accueille un petit tel que moi à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, ne perdra pas sa récompense. C'est Raoul Follereau qui raconte, toujours dans son même discours sur la charité, cette histoire. C'était une veille de Noël, une dure journée, visite, téléphone, lettres et colis innombrables grâce auxquels, sous le signe du père de Foucault, des dizaines de milliers d'enfants et de vieillards ont souri. 10 heures du soir. Je suis là, un peu désemparé. J'ai besoin tout à coup de solitude et de silence. On a sonné, encore. On a tant sonné à la porte aujourd'hui. Avec un peu d'impatience, j'ouvre. Il y a là un enfant, très pâle, avec de grands yeux qui regarde je ne sais où, ce que les grandes personnes sont incapables de voir. Il me tend une lettre sans un mot et se sauve. La surprise passée, j'essaie de le rattraper, peine perdue. Il a déjà dégringolé l'escalier et la rue l'a absorbé. J'ouvre la lettre. Il y a 25 francs et ces lignes. Monsieur, pour l'amour de Dieu, veuillez accepter de la part d'un ouvrier, dans sa 6e année de maladie, cette modeste participation pour ne pas le priver de la joie d'aider de plus malheureux. Et là, Raoul Follereau regarde les séminaristes et continue. Messieurs, je ne connais pas, pour ma part, de plus belle définition de la charité. La charité doit être faite d'abord pour l'amour de Dieu. Elle prend en lui son sens souverain. Elle fait de nous ses collaborateurs indignes mais reconnus. Sans l'amour de Dieu qui en est la source, elle devient générosité, altruisme, philanthropie. C'est très beau, j'admire, je salue, mais je le répète, ce n'est pas la charité. La charité, c'est la projection du visage du Christ sur le visage du pauvre, du souffrant, du persécuté. Alors vous allez me dire, par exemple, Mère Teresa soigne tout le monde sans faire une leçon de catéchisme avant, ce qui est vrai. Mais tout le monde est capable de faire le lien entre Mère Teresa et les sœurs dites de la charité. Tout le monde sait bien que quand elle emmène quelqu'un au mouroir, on lui parlera peut-être pas de Dieu, mais que c'est une maison qui appartient au Christ et que les gens sont accueillis chez le Christ. Le père Carré, d'autres hommes, d'autres femmes s'efforcent de faire régner plus de fraternité sur la terre. L'originalité des chrétiens qui œuvrent pour le même but vient de cette référence au Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de se mettre en avant, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Et si je me vante de ce que je fais, voilà, j'ai déjà touché ma récompense, dit l'Évangile. Mais il s'agit que les gens perçoivent la cohérence de notre vie. Parce que si nous sommes incohérents, ils feront le lien. Celui-là, il est chrétien et voilà comment il agit. Donc il faut, sans que je leur dise, qu'ils perçoivent la cohérence de ma vie, que le jour peut-être où ils apprendront que je suis chrétien, ils sachent que c'est à ce titre-là que je l'ai fait. Qu'un lien puisse un jour être établi. C'est quand même ce que Jésus dit. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient non pas vous, mais votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas ma gloire que je recherche, au contraire, je voudrais m'effacer. C'est la gloire de Dieu, que le nom de Dieu soit sanctifié. La réponse de la charité, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est dans notre cœur et dans notre regard. Je suis le seul à déterminer si quand je donne, je fais la charité, enfin je pose un acte de charité, ou je ne le fais pas, de même quand je ne donne pas. Parce que c'est qu'est-ce que j'ai au fond du cœur quand je le fais ou quand je ne le fais pas. Mais ça ne suffit pas pour que ce soit un acte de charité. Il y a une approche négative. Je sais très bien ce que j'aime pas que les autres me fassent. Donc, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'ils me fassent. Et puis, il y a la face positive. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Et si ma charité, c'est une imitation de Dieu, je fais d'abord aux autres avant qu'ils ne m'aient fait, parce que si j'attends qu'ils m'aient fait pour, et qu'ils attendent pareil, il n'y aura jamais. Donc je fais aux autres, peut-être en espérant que je ne le fais pas pour qu'ils me le rendent, mais peut-être un jour il y aura la réciproque. Je fais aux autres ce que j'aimerais qu'éventuellement, si je suis dans leur situation, ils me fassent. Je vous lis un passage de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un maître pour moi sur la charité. Dans l'Évangile, le Seigneur explique en quoi consiste son commandement nouveau. Il dit en Saint Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre ami et vous haïrez votre ennemi. Pour moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Sans doute, au Carmel, on ne rencontre pas d'ennemis. Ce matin, je recevais une lettre d'une sœur que je connais. Et elle me dit, c'est étonnant dans une communauté de sœurs, depuis quelque temps, il y a une sœur qui ne m'adresse pas la parole. Je me suis retrouvé à côté d'elle à la messe. On a été invité à échanger un geste de paix. Je me suis tourné vers elle. Elle ne m'a pas regardé. Donc, il n'y a pas d'ennemis, mais dans les communautés de bonnes sœurs, on trouve tout comme... C'est la même nature humaine. Sans doute, au Carmel, on ne rencontre pas d'ennemis. Mais enfin, il y a des sympathies. On se sent attiré vers telle sœur au lieu de que telle autre vous ferait faire un long détour pour éviter de la rencontrer. Ainsi, sans même le savoir, elle devient un sujet de persécution. C'est très fin, Sainte Thérèse. Eh bien, Jésus me dit que cette sœur, il faut l'aimer, il faut prier pour elle, quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Et je me suis dit, tiens, ce passage, il faut que je l'envoie à la sœur de ce matin. Et ce n'est pas assez d'aimer, il faut le prouver. On est naturellement heureux de faire un présent à un ami. C'est très très fin, son analyse. On aime surtout à faire des surprises. Mais cela, ce n'est point de la charité, car les pécheurs le font aussi. Voici ce que Jésus m'enseigne encore. Donnez à quiconque vous demande, et si l'on vous prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donnez à toutes celles qui demandent, c'est moins doux que d'offrir soi-même par le mouvement de son cœur. Encore, lorsqu'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner. Mais si par malheur on n'use pas de paroles assez délicates, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Bon, je vous en citerai peut-être un ou deux autres plus tard, un peu plus loin. Ce qu'il y a dans notre cœur qui détermine la charité. Ensuite, la charité, elle se mesure à notre regard. Apprendre à regarder les autres comme le Christ. C'est-à-dire, évidemment, c'est une banalité ce que je vais dire, à dépasser toute apparence. Alors, vous savez, il y a la médisance. Je répète ce que j'ai entendu dire, mais vous l'avez vu ? Ah ben non, mais on me l'a dit, je pense que la personne qui me l'a dit est fiable. Donc je n'en sais rien. Non seulement c'est une médisance, mais ça peut être une calomnie, puisque moi je ne l'ai pas vu. Et il y a ce que je vois, mais ne pas emprisonner la personne dans ce que j'ai pourtant moi-même vu et entendu, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Thérèse dit dans un autre passage que peut-être j'aurai le temps de vous citer, « Évidemment, je l'ai vu faire ça qui n'est pas très agréable, mais ce que je ne sais pas, c'est tous les efforts qu'elle a fait pour ne pas le faire plusieurs fois. » Voilà, ça c'est fabuleux. On est infiniment plus grand que ce qu'on... Les autres sont infiniment plus grands que ce qu'on les voit faire ou ce qu'on les entend dire. Et je n'ai pas le droit de les réduire à ça, de même qu'ils n'ont pas le droit de me réduire à une erreur que j'ai pu faire. Le Père Carré. Il y a quelque chose de profondément original dans ce que nous nommons la charité fraternelle, d'original par rapport à la fraternité, si exigeante soit-elle, dictée par un idéal humain. Aimer les autres, ce n'est pas établir entre eux et moi des rapports d'amitié qui se limiteraient à eux et à moi, c'est les faire participer à l'amour dont, avec moi, ils sont aimés de Dieu. Le regard qu'on porte sur le prochain en est transformé. Cette transformation, peut-être, l'exprimerait-on au mieux en disant « On voit le prochain toujours avec un préjugé favorable. » Surprenante formule. S'agit-il d'une simple disposition accueillante de l'esprit, d'une sympathie préfabriquée qui nous ferait nier les défauts de nos frères, ou bien d'une vague confiance que nous mettrions a priori en n'importe qui? Dans les deux cas, un engagement véritable de soi n'existe pas. Sans doute un regard chaleureux, indulgent, est préférable au regard méfiant, soucieux de garder les distances et d'attendre que le vis-à-vis ait fait ses preuves, comme l'on dit. Cependant, le regard chrétien est d'une autre nature. Quelque chose de la lumière de Dieu passe par lui. Il saisit d'emblée les possibilités de l'autre. Il ne juge pas selon les estimations personnelles, influencées par le caractère ou l'humeur du moment. Jamais il ne juge de l'extérieur. C'est l'amour que nous portons dans notre cœur qui découvre d'emblée les possibilités qu'ont nos frères de croître dans l'amour, ou s'ils en sont fort loin, de se convertir à l'amour. Moi, j'aime bien ces choses bien balancées qui ouvrent toujours une porte encore derrière la porte. Voilà. La possibilité qu'ont nos frères de croître dans l'amour. Et si je pense qu'aujourd'hui ils n'en sont pas là, la possibilité qu'il a à se convertir à l'amour. Il y a quelqu'un, je vous ai peut-être déjà cité cette phrase, « Les plus beaux regards sont ceux qui nous espèrent. » Voilà. « Le meilleur est encore à venir. Je » Je vous regarde de telle façon que je vous incite à donner encore le meilleur de vous-même que vous ne m'avez pas livré. « Les plus beaux regards sont ceux qui nous espèrent. » Un autre passage de Sainte Thérèse. Vous voyez, ça c'est la charité très concrète. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Les choses sont claires. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais. Ah, c'est intéressant! Elle a de l'antipathie naturelle, ça c'est ce qu'il y a dans notre cœur à tous. Je croise quelqu'un, il a une bonne tête, il a une mauvaise tête. Paf, je fais un classement, selon mes humeurs, mes sympathies ou mes antipathies naturelles. Bon, il ne faut pas le déplorer, il faut le constater. Enfin, je peux le déplorer quand même, oui. Ainsi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je ne me contentais pas de prier pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais, c'est-à-dire ça, je reste extérieur, il faut que je la fréquente. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Voilà. Quelquefois, la victoire, en amour, la victoire, c'est la fuite. Cette personne-là m'énerve, je quitte la pièce, je vais faire le tour du pâté de maison et je reviens. Comme elle ignorait absolument les motifs de ma conduite, elle demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois vivre. Je vous vois sourire, pardon. Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. » Voilà. Elle est autant aimée par Dieu que moi, autant rachetée par le Christ que moi, qui a versé la même goutte de sang pour elle que pour moi. Elle est infiniment aimée et donc infiniment aimable. Je vais tâcher de trouver un troisième passage encore. C'est vraiment un génie, cette petite Thérèse. La charité, c'est une attitude. L'année dernière, on avait parlé des béatitudes, c'est le chapitre 5 de saint Matthieu. Et ensuite, tout le chapitre 5, 6 et 7, il y a un esprit que Jésus développe, qui rappelle les exigences de l'amour. Déjà, l'Ancien Testament, c'était un progrès, œil pour œil, dent pour dent. Et là, on passe carrément à un autre niveau, il y a une rupture qu'on ne peut franchir que par la charité. Par exemple, on te frappe la joue droite, tends la joue gauche. Il y a un autre moyen de vaincre la violence, c'est par un surcroît de douceur, qui n'est pas de la lâcheté. Par exemple, un enquiquineur te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. Voilà, ne compte pas. Par exemple, on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Voilà, tout ce qui est impossible. Pardonnez à ceux qui vous ont fait de graves offenses. Pardonnez à ceux qui ont tué un membre de votre famille. Mais Seigneur, tu n'y penses pas. Non, je sais très bien que c'est impossible. Je te le demande d'abord parce que moi je l'ai fait le premier, et ensuite parce que je te donne la force de le faire. Ça, c'est la charité. Et donc, il y a toute une attitude. Je ne passe pas mon temps, comme disait le père Jérôme, à analyser ce qu'est la charité. Ma fréquentation avec Jésus est telle que peu à peu, sans m'en rendre compte, j'essaye de la vivre. Mon comportement vis-à-vis des autres. Je vous lis un passage du cardinal Danielou. Il faut qu'il y ait chez les chrétiens quelque chose qui attire les âmes, une joie, une liberté, une qualité d'intériorité qui donne envie de savoir d'où elles viennent. Ce ne sont pas des qualités qu'on puisse singer, elles doivent rayonner de nous tout naturellement. Enfin, tout naturellement, bien qu'elles soient surnaturelles. Nous devons nous garder de vivre en petits milieux bien clos. Il doit y avoir dans la charité vécue une liberté d'ouverture, une communicativité, un esprit d'accueil qui tranche sur le monde. Nous touchons là à la racine de notre foi qui dit que Dieu est amour, qu'il y a éternellement en Dieu le don d'amour que se font les trois personnes. Ainsi l'absolu est amour, la vie même de l'être est amour. Si le fond de tout est cette communion entre les personnes divines, il est normal que réaliser la création revienne à réaliser une communion entre les personnes humaines. Cela doit transformer nos vies. Il y a une nouveauté bouleversante dans ce message d'amour qu'aucune philosophie ne laissait prévoir. L'amour doit alors devenir la loi de notre vie. Et vivre en donnant notre vie aux autres, c'est rentrer dans le vrai sens de l'existence. Donc, Je ne vais pas tarder à arrêter. Je vous lis quand même un autre passage de Sainte Thérèse sur cette bienveillance. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, son bon désir. Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité, et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Je vous ai parlé d'une grève de cœur. C'est dans l'Eucharistie et dans le sacrement de la réconciliation que s'opère cette greffe de cœur. Jérémie et Ézéchiel disent « J'ôterai ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair ». Ça, c'est la réconciliation. Et ensuite, il faut que le cœur se remette à battre et que le sang circule. Il y a une transfusion sanguine, c'est l'Eucharistie. Et lorsque je vis des deux, de la réconciliation parce que je suis pécheur et de l'Eucharistie parce que je veux vivre la charité, je laisse Dieu opérer cette greffe de cœur et lui donner le temps. Alors le temps, c'est la prière, c'est ce que disait le père Jérôme. Rodage, 5000 heures d'oraison. J'aime bien. Voilà. Il n'y a pas de vie de charité possible sans l'Eucharistie et sans la réconciliation. Je pourrais développer, mais je vous donne juste le titre de la quatrième partie. Grand 4, qui est mon prochain? Alors j'avais prévu de faire un commentaire sur l'articulation entre les deux commandements qui relient les trois amours. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. C'est, je vous souligne, la réparation de ce qui a été abîmé par le péché. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi ayant été abîmé, Jésus nous redonne ces commandements parce qu'il nous donne de les vivre, parce que notre cœur peut être guéri. Il y avait une deuxième partie, qui est mon prochain? Alors c'est d'abord le plus proche de moi, c'est-à-dire ceux que je vois tous les jours. Il serait paradoxal que je m'intéresse à tous les petits chinois et que je n'embrasse jamais ma femme ou mon mari, ou que je ne vois pas ceux qui sont à portée de main. Petite phrase de Madeleine Delbrel. Chaque matin, on trouve son prochain, son plus proche prochain qu'on voit tous les jours. C'est à travers lui qu'on dit bonjour au monde entier, qu'on salue le Seigneur. J'aime beaucoup ça. La fraternité selon Dieu, nous voulons la vivre en esprit pour tous les hommes, en acte vis-à-vis de ceux que nous rencontrons. Et Dostoïevski a écrit dans les Frères Karamazov, il y a une page où il y a un médecin qui se sent une amitié pour la terre entière. Alors il donnerait sa vie pour le monde, mais qui est incapable de faire un geste à portée de main. Voilà, et bien, il faut qu'on réfléchisse. Je ne peux pas donner ma vie pour le monde, d'abord parce que le Christ l'a déjà fait, mais ce que je peux faire, c'est des choses à portée de main. Petit b, qui mon prochain? Celui dont moi je vais me rendre proche. C'est ce que Jésus répond dans la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire qu'en me levant ce matin, je ne sais pas qui est mon prochain exceptionnel que Jésus va mettre sur ma route aujourd'hui. Il y aura peut-être personne d'autre que ceux que je côtoie habituellement, et encore c'est que j'aurais mal cherché, et il y aura peut-être celui qui va faire appel à moi, ou celui devant qui je vais passer, et qui va déterminer ou non ma conduite. Forcément, celui qui m'appelle pour me demander mon aide, j'allais dire forcément, il me dérange. Je ne l'ai pas attendu pour avoir un programme aujourd'hui. Et donc, c'est ma capacité à le faire passer avant ce que j'ai prévu. Petit c, le prochain, c'est moi-même. Il faut que je m'aime moi-même, non pas pour de l'égocentrisme, Mais parce que si je ne me pardonne pas, si je ne m'aime pas tel que je suis, la qualité d'amour qui sortira de mon cœur pour les autres sera un amour qui ne sera pas paisible et pas serein. Et donc pour mieux aimer les autres, je dois m'aimer soi-même, régler le problème, et ensuite je serai tout à fait en paix pour aimer les autres. Et quatrième, c'est saint Paul qui le dit, aimer nos frères dans la foi. Saint Paul dit, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Pourquoi on est plus sensible, par exemple, aujourd'hui aux chrétiens persécutés? Parce que ce sont nos frères dans la foi. Et en conclusion, j'avais prévu, vous savez qu'à chaque vertu, je vous avais dit, on va prendre le témoignage d'une catégorie de population. Pour la foi, c'était les martyrs. Pour la vertu d'espérance, c'était les consacrés. Et là, pour la vertu de charité, je pensais vous parler des missionnaires. Mais je préfère arrêter maintenant et vous laisser un peu le temps de poser des questions si vous en avez. Madame.
Je voudrais vous poser une question à propos de ce que vous avez dit dans l'évangile, je connais une dame qui a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de monnaie, et elle n'a pas un argent ni un autre. Je trouve que c'est impossible parce que la retraite.
Vous savez, on est sur un terrain difficile parce que on va vous dire, il y a l'obole de la veuve dans l'évangile qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ceci dit, je comprends que ça puisse se faire avec discernement. Je vous raconte une toute petite histoire que je racontais aux enfants quand j'étais à l'école. Jésus sort de l'école, c'est l'heure du goûter, et il est devant la maison, et il prend son goûter, c'est du pain d'épices. Et un autre enfant regarde Jésus manger son goûter, et lui dit, est-ce que tu me le donnes? Alors Jésus, très généreux, donne son pain d'épices, puis retourne à la cuisine, va voir Marie, et dit, j'ai plus mon goûter, est-ce que tu m'en donnes? Alors Marie lui donne des tartines de beurre et de chocolat. Puis il va manger devant la maison, puis un enfant passe, et il donne son goûter, puis il retourne à la cuisine et Marie lui donne. Puis la quatrième fois, il retourne à la cuisine, il a toujours donné son goûter, Marie lui dit non. Maintenant, je t'en donne plus parce que si chaque fois que je te donne, tu reviens en chercher, voilà, faut que t'apprennes, dit l'histoire, à faire des sacrifices. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne peux être généreux qu'avec ce qui est à moi. Si sous prétexte que j'ai donné, je vais aller demander à quelqu'un qui va me redonner, je suis généreux avec l'argent d'un autre. Donc il faut que ce soit, pourquoi Saint-Martin n'a-t-il donné que la moitié de son manteau? Parce qu'il n'y a que la moitié qui lui appartient. Je ne peux pas être généreux avec l'argent des autres. Pourquoi le curé d'Ars, qui a eu des fortunes qui lui sont passées entre les mains, pourquoi a-t-il toujours pu compter sur la Providence? Parce que d'abord il a donné son argent. S'il dit, je me garde mon argent, mais j'implore la Providence pour que mes affaires marchent, ça ne marche pas. Mais il donne son argent, il ne donne pas l'argent des autres. Bien. Alors, il y a des gens, par exemple, qui disent, moi, je prends 3 pièces d'un euro et les 3 premiers que je vois, je donne. Mais après, je ne donnerai plus. Parce que si je donne tout 100 euros aujourd'hui, je n'ai plus rien demain. Et qu'il est légitime quand même si je ne vais pas déjeuner chez qui vous voulez très cher tous les jours, il est légitime que je me garde un peu d'argent pour manger moi-même. Vous avez des gens qui disent, nous on budgète les vacances, il y a un budget de 200 euros pour faire un voyage extraordinaire, et on donnera 5% à une œuvre. Donc soit ça leur coûte très cher, mais les 5% sont plus gros, soit ça leur coûte pas cher, mais ils ont donné 5% de leurs vacances à une œuvre. Voilà, pourquoi pas. Mais il y a un discernement. Après, le curé d'Ars, il avait une phrase qui est, si on l'applique, on est... Il dit, je préfère me tromper en donnant que me tromper en ne donnant pas. Bon, ceci dit, quelquefois, légitimement, on peut se dire, là, peut-être je préfère ne pas donner ou ne pas donner d'argent ou aller acheter directement un sandwich plutôt que de voir le risque que ce soit utilisé pour autre chose. Je me souviens, j'étais d'accueil dans une paroisse, et il y a un jeune qui vient en disant « j'ai besoin de 5 euros parce que j'ai besoin d'un médicament. Et j'ai 2 euros et demi, et voilà, est-ce que vous me donneriez de... » Je lui dis non. Je vais aller à la pharmacie avec vous, on va acheter le médicament. Donc, il commande le médicament, je lui dis « donnez votre argent, et je ferai le reste. » « Ah ben non, j'en ai pas. » Je lui dis « Très bien, mais alors autrement dit, vous avez commencé par un mensonge. Je ne dis pas que votre situation, elle est très agréable, mais ce qui m'agace, c'est d'instaurer la relation par un mensonge. Bon. » Ça n'est pas de l'avarice que de ne pas tout donner, parce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, on va vous rendre un service, on va faire la quête en sortant et vous me déposez, vous secouez bien toutes vos pièces, qu'il n'en reste pas une. Puis moi, je le donnerai au pot. Je comprends que la dame, enfin voilà, on a le droit d'en garder pour demain et de prévoir un peu. La réponse, vous voyez, c'est là qu'elle est dans notre cœur. Elle n'est pas dans la tête de celui qui prêche. Elle est dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je n'ai pas donné? Parce que je suis avare. Parce que celui-là a une tête qui ne me revient pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Ça m'arrive quelquefois. Mon père, vous n'avez pas une petite pièce? Ah non, j'ai que des gros billets. Que je ne donne pas. Mais ce n'est pas bien. Voilà, la réponse, elle est dans mon cœur. Je peux, quelquefois il m'arrive de donner une pièce pas par générosité mais pour acheter ma tranquillité, et ben voilà, donc j'ai donné, mais c'est absolument pas la charité. Et je peux très bien, ça n'est pas forcément un manque de charité si je ne donne pas. C'est compliqué, mais la réponse elle est dans mon cœur. Quand quelqu'un me dit mon père je suis un peu avare, je lui dis ben, la meilleure façon de lutter contre l'avarice c'est de faire un don. Voilà, alors je le dis très librement parce que la personne fera ce qu'elle voudra et à qui elle voudra. Mais si je suis avare, eh ben je ne vais pas faire des grands discours, il faut que je donne. Mais moi, je ne suis pas... que les gens qui ont... Si les gens ont beaucoup d'argent, ils sont très généreux, je me réjouis qu'ils aient beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir en donner beaucoup. Non, ça ne répond pas à votre question. Si, un peu... Madame.
Vous avez parlé de charité et de pardon. Je ne sais pas si placer le pardon dans la charité, la relation entre le pardon et la charité.
Alors, c'est sûr que parmi les actes de charité que le Seigneur m'appelle à vivre, il y a le pardon dans la mesure où j'ai été offensé par quelqu'un, et il y a ça sur mon cœur. Donc, est-ce que je développe de la rancœur? Est-ce que je lui en veux? Est-ce que... Mais le pardon... Je ne dois pas mettre de limite au pardon. C'est-à-dire que je tiens en même temps compte de mes limites et de ma faiblesse, mais je ne dois pas mettre de limite à la possibilité que Dieu a d'agir en moi. C'est-à-dire que si je dis « je pardonne, mais cette personne, je ne veux plus la voir », j'ai peut-être pardonné, mais j'ai posé une limite. Et le Christ est capable, par la puissance de son amour, de me faire aller dîner avec la personne pour laquelle je n'aurai pas forcément de sympathie naturelle, mais aller jusqu'à la réconciliation jusque-là. Et pourquoi c'est la charité? Parce qu'il est évident, si je vous marche sur le pied, ce sera, j'espère, relativement facile de me pardonner. Si je vous offense gravement, vous pouvez ne pas avoir la force de pardonner. Ce que Jésus admet. Mais il me dit « pardonne ». Donc, il doit me donner ce qu'il me demande de faire. Et moi, je commence par prier pour ceux qui m'ont offensé. Ça montre l'ouverture de mon cœur. Ça montre, Seigneur, fais-leur le bien que moi, je ne suis pas capable de leur faire. Et je prie, moi, pour avoir la force de pardonner. C'est-à-dire que j'en ai vraiment le désir. Et je prie, comme la veuve importune le juge dans l'Évangile, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir une obsession. Mais ce n'est pas une fois par mois, une fois par an, le 1er janvier, journée de la paix, je prie pour pardonner. Ensuite, ce n'est plus mon problème. Non, ça doit être un souci parce que je ne peux pas accepter que mon cœur reste avec cette rancœur sans avoir réussi à pardonner. Alors, le Seigneur, j'attends de lui qu'il m'en donne la force. Et ça prendra la forme. Ensuite, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut être deux. Voilà. Moi, je tends la main, mais on ne veut pas la saisir. Alors, ben, c'est plus moi qui bloque. Et je continue à le vouloir du bien, et je suis prêt à aller au-delà. Le jour où il est prêt, à aller au-delà. Ça a répondu ? Mais voilà, le pardon, c'est sans fin. Je... Non. Enfin, oui et non. Il faut qu'on fasse comme le Christ fait vis-à-vis de nous. Lui nous pardonne sans condition, avant même qu'on aille le voir. Et donc, je ne dois pas attendre que l'autre vienne me demander pardon, parce que peut-être il ne s'en est pas rendu compte, peut-être il ne viendra jamais. Mais moi, je sais que mon cœur n'est pas net. Donc, je dois demander à Dieu la force de pardonner, même s'il n'y a aucune manifestation de regret, de repentir, de démarche vis-à-vis de moi. Voilà. Peut-être que je n'exprimerai jamais ce pardon, mais je sais dans mon cœur que mon cœur est parfaitement en paix. Alors l'idéal, bien sûr, c'est qu'on soit deux. Mais c'est pas... Voilà, moi je fais en tout cas tout le travail qui me revient, ou je laisse faire en moi, par Dieu, tout le travail qui me revient. Bon, il faut qu'on arrête, parce que, voilà, dans 2 minutes, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Merci pour votre patience.